Le grand rendez-vous de l'immobilier par Radio Immo et Capital, une émission présentée par Christine Lejoux et Sylvain Lévy-Valency.
Bonjour les amis et merci d'être avec nous. Voilà, c'est parti pour une heure d'actualité autour de l'immobilier, décryptage, info. C'est votre rendez-vous mensuel où on va tâcher de vous donner les clés de lisibilité pour l'immobilier, notamment si vous êtes par exemple sur ce qu'on appelle le parcours résidentiel, si vous souhaitez louer, acheter, vendre par exemple. On va passer une heure ensemble avec des experts, vous posez vos questions et nous vous y répondrons très précisément. Ils sont avocats, experts, experts comptables, notaires, et ils répondront à toutes vos questions. Je suis accompagné, comme d'habitude, pour ce numéro de Christine Lejoux. Comment ça va, Christine ?
Très bien, Sylvain. Merci beaucoup. Bonjour à tous.
Alors, on va surfer un petit peu sur les tendances, notamment la tendance des taux d'intérêt qui semblent se stabiliser, voire même peut-être encore baisser. On voit que les banques, aujourd'hui, c'est open bar. On veut encore des clients. Donc, on reprête. Et au sommaire de cette émission, ma chère Christine, on va parler de plusieurs sujets, notamment au niveau des prix.
Oui, absolument. On va s'interroger sur le printemps de l'immobilier. Est-ce qu'après 2 ans et demi de crise, on va retrouver de nouveau cette année un printemps de l'immobilier quand on a, comme on a coutume d'en avoir chaque année? C'est notamment notre invité, Xavier Bellevaux, le directeur général de WeInvest France, qui nous aidera à répondre à cette question.
Voilà, un réseau extrêmement dynamique d'ailleurs, qui est en train de bien se développer en France. Il nous répondra justement à toutes vos questions. Les questions, bien évidemment, vous avez compris, c'est les prix. Les prix, où acheter, comment acheter, de quelle façon. On est là pour ça, justement. Ça fait déjà presque 5 années, le 63e numéro, c'est aujourd'hui justement pour le grand rendez-vous de l'immobilier. Les experts vous répondront tout à l'heure, bien sûr, dans des questions que vous posez sur le groupe Facebook Les Proprios, qui sont gérés par nos amis de Capital. Vous êtes dans le 63e numéro. C'est parti pour l'émission.
L'actu de l'immobilier.
De retour sur le plateau, on va commencer, ma chère Christine, cette émission avec l'actu du mois. La seule question qui prévaut en ce mois de mars 2025, est-ce que on va assister à un vrai retour, à un vrai printemps de l'immobilier ?
Traditionnellement, le printemps, c'est la saison des achats immobiliers. Tout simplement parce que entre le moment où vous recherchez votre maison ou votre appartement, ce qui peut prendre un petit peu de temps, celui où vous essayez de décrocher un crédit immobilier, ce qui ne se fait pas non plus du jour au lendemain, eh bien, si vous commencez vos démarches d'achat immobilier entre mars et mai, a priori, vous pouvez espérer être dans les lieux à la fin de l'été, fin août, pour la rentrée scolaire des enfants. Mais en 2024, pas plus qu'en 2023, on n'a pas eu de printemps de l'immobilier, tout simplement en raison de la flambée des taux de crédit. Ils ont quadruplé en 2022 et 2023, ce qui a contraint nombre de ménages à reporter leur projet d'achat. Mais l'année 2025 pourrait marquer enfin le retour de ce fameux printemps de l'immobilier, grâce à la baisse des taux de crédit, qui ont perdu quand même environ un point en l'espace d'un an, et au recul des prix des logements anciens.
Bien sûr. Alors, la fenêtre de tir, elle semble quand même un peu étroite. Bon, c'est bien, c'est déjà positif. Alors, on va pas faire du négatif, mais on voit que, justement, les taux baissent, la baisse des prix ralentit déjà. On voit qu'en fait, voilà, on a endigué la baisse, c'est normal, il y a un facteur taux d'intérêt, relance du marché, et on pourrait même assister peut-être à une remontée des prix, non ?
C'est possible, en effet. Les statistiques de la Fédération nationale de l'immobilier sont édifiantes à cet égard. Les prix des logements anciens en France ont baissé de 4% en 2023, mais en 2024, cette baisse n'était plus que de 0,8%, tout simplement en raison de la timide reprise des transactions depuis septembre dernier. Et si vous prenez les 50 plus grandes villes de France, eh bien en février 2025, toutes ont vu leur prix augmenter, selon les statistiques de Se Loger, alors qu'en février 2024 comme en février 2023, les prix étaient en baisse. Et on a par exemple le patron de Century 21 France, qui est un gros réseau d'agences immobilières, qui prévoit une augmentation des prix de l'immobilier ancien de 2 à 3% dès cette année en France.
Ah oui, quand même.
Quand même. Et dans l'immobilier neuf, eh bien, c'est la même chose. Les prix avaient enfin cessé de monter l'année dernière pour se stabiliser, mais la Fédération des promoteurs immobiliers n'exclut pas qu'ils repartent à la hausse dès cette année, simplement parce que, à la faveur de la baisse des taux d'intérêt, les achats sont en train de reprendre. Parallèlement, on peut se poser la question, comme vous le disiez Sylvain, de la poursuite de la baisse des taux de crédit. Donc, ils ont perdu plus d'un point en 14 mois. Est-ce que ça va continuer ? Les avis des courtiers sont partagés. Certains disent on va tomber à 2,5-3% en 2025. D'autres disent, attention, on a eu une alerte début février. Il y a eu des hausses de nouveau des taux de crédit. Ça a été des hausses isolées de la part de certaines banques, mais quand même, c'était du jamais vu depuis plus d'un an. Et ces hausses, en fait, ont résulté de l'évolution, ça va être un petit peu barbare, mais je vais expliciter, de l'OAT à 10 ans. C'est l'obligation assimilable du Trésor. En fait, c'est le taux que les investisseurs internationaux exigent sur les marchés financiers pour prêter à la France. Comme les finances publiques du pays sont pas en excellent état, ce taux connaît des hausses par moment. Et comme les banques l'utilisent pour fixer leur taux de crédit immobilier, eh bien, elles répercutent la hausse de l'OAT à 10 ans sur leur taux de crédit. C'est pourquoi une remontée des taux de crédit immobilier n'est pas du tout exclue dans les prochains mois.
Alors, c'est vrai que c'est un facteur, on va dire aussi géopolitique, puisque si l'OAT effectivement a été un peu ébranlé, c'est parce que la France a une cote au niveau international et les investisseurs, les financiers, regardent la cote.
Elle est moins bonne qu'avant, cette cote, effectivement,
comme
tout
France,
à fait.
De toute façon, est un pays qui est chroniquement déficitaire. Je trouve ça extrêmement intéressant avec un État quand même et un exécutif qui nous donne en plus des leçons de gestion, ce qui est, je trouve, un peu ironique. Dans une certaine mesure, effectivement. Il faut l'observer avec beaucoup, beaucoup de vigilance. Tant qu'il est bon de pouvoir acheter, ne tardez pas trop, justement. Il faut leur dire à nos amis de ne pas trop différer les projets dans le temps.
Oui, parce qu'en plus, on en parlera un petit peu plus tard, notamment avec Xavier Bellevaux. Mais dans quelques jours, à partir du 1er avril, on va avoir une hausse des frais de notaire qui ne va pas concerner tout le monde. Mais c'est pour ça que je pense en effet que si on a un projet d'achat immobilier, il ne faut pas trop attendre. Et surtout, il faut utiliser tous les moyens possibles pour alléger la facture.
Bien sûr.
Par exemple, il ne faut pas hésiter à négocier les prix de vente. Alors, c'est pas évident, mais ça se fait. Et il y a des choses très simples. Regardez depuis combien de temps l'annonce est en ligne. Essayez de savoir auprès de l'agent immobilier si la vente s'effectue dans le cadre d'une succession ou d'un divorce. Parce que dans ces cas de figure, les gens sont un petit peu pressés de vendre et donc plus enclins à vous consentir un rabais. Et dans l'immobilier neuf, allez sur les sites internet des promoteurs, parce qu'ils font plein d'offres promotionnelles en ce moment. Le printemps de l'immobilier, puisqu'il est en fin de retour cette année, ils n'ont pas envie de passer à côté. Du coup, vous avez des frais de notaire qui sont offerts, vous avez des remises de quelques milliers d'euros par pièce. Les banques, c'est pareil. Elles s'associent même parfois aux promoteurs. On l'a vu la semaine dernière avec Icade et Meilleur Taux, qui propose une baisse d'un point du taux de crédit sur 150 000 euros pour l'achat d'un 5 pièces. Donc, c'est quand même bon à prendre. Et puis, dans le 9 toujours, n'oublions pas que le 1er avril, le prêt à taux zéro est élargi aux maisons neuves. Ce n'était plus le cas en 2024. Le PTZ ne pouvait financer que des appartements neufs. Et il est élargi à tout le territoire et non plus seulement aux zones dites tendues, où la demande de logement est très supérieure à l'offre.
Et là, on peut remercier d'ailleurs Valérie Létard,
la ministre du logement.
Qui l'a obtenu avec les forceps. Hein.
Exactement. Et toute dernière chose dans le neuf, à mettre également au crédit de Valérie Létard, c'est l'exonération d'impôt des donations familiales pour financer l'achat d'un logement neuf dans la limite de 300 000 euros par donataire, la personne qui reçoit. Quand même pas mal, 300 000 euros. Mmh. Voilà. Donc en ce moment, ça peut être un peu le printemps et Noël en même temps dans l'immobilier.
Que les astres vous entendent et que justement les amis, si vous avez vos projets sur le parcours résidentiel, profitez-en. Je pense qu'effectivement, on va assister à des remues ménages, à mon avis, compliqués peut-être dans l'immobilier. En tout cas, une chose est sûre, c'est que la température est bonne. On a des prix qui ont quand même un peu baissé.
Oui.
On a des taux d'intérêt qui sont stables, profitez-en. Et justement, on va parler de ces opportunités, ma chère Christine, sur l'immobilier, avec un grand professionnel de l'immobilier. Et pour cause, il est le directeur général du réseau WeInvest France. On va le recevoir dans quelques instants.
La grande interview.
Les amis, voilà de retour dans notre 63e édition du Grand Rendez-vous de l'immobilier. On vous l'avait dit tout à l'heure, nous allons recevoir et nous en recevons sur le plateau Xavier Bellevaux, le directeur général de WeInvest France. Bonjour Xavier Bellevaux.
Bonjour Sylvain.
Alors, vous êtes le patron d'un tout nouveau réseau qui se développe beaucoup en France, spécialisé dans la vente et la location de biens immobiliers. On va parler avec vous, si vous voulez bien, de toute l'actualité. Et Dieu sait qu'en ce moment, l'actualité immobilière est pléthorique. On parle même avec notre chère Christine de Printemps de l'immobilier. Et justement, j'en profite puisque Christine va vous poser la première question.
Oui, Xavier, après 2 ans et demi de crise immobilière, comment se présente cette année ce qu'on appelle le printemps de l'immobilier, c'est-à-dire la grosse saison des achats immobiliers en France notamment, de mars à mai? On n'a pas vraiment eu ce printemps de l'immobilier en 2024 ni en 2023 à cause de la flambée des taux de crédit. Est-ce qu'il revient le printemps de l'immobilier en 2025? Est-ce qu'il y a une amorce de reprise des achats immobiliers?
Alors bonjour à tous. Ah oui, c'est un grand oui. Déjà, il revient. Depuis le début d'année, si on regarde sur les portails immobiliers en moyenne, on a à peu près entre plus 20 et plus 30% d'annonces de biens à la vente qui sont diffusées. Et ça, c'est un excellent indicateur parce que s'il n'y a pas de biens à la vente, il n'y aura pas de clients pour acheter ou pour vendre. Donc on a, si je ne dis pas de bêtises, de côté de Se Loger, plus 25%, plus 30% sur Le Bon Coin et plus 20% sur le portail immobilier Bien Ici. Donc on voit bien que de manière assez uniforme dans toute la France, les biens reviennent à la vente. Autre point aussi qui est assez intéressant, on voit bien que les taux se sont stabilisés, voilà, depuis le début d'année. Alors on entend
taux de crédit, effectivement.
Voilà, taux de crédit. Ouais. La BCE nous disait qu'on allait encore descendre aux alentours des 3 et peut-être en dessous. Mais alors là, je serais beaucoup plus nuancé sur ce point-là. Par contre, je pense qu'il faut qu'on s'habitue, en tout cas, à avoir des taux aux alentours des 3%, 3,30, pour la simple et bonne raison que on l'a vu, les taux ont baissé, mais pour autant, on a des problématiques avec Trump, tout ce qui se passe aux États-Unis, c'est une problématique. Et du coup, les OAT, et puis on voit avec l'armement qui s'est mis en place, et on voit bien que les Allemands vont avoir besoin aussi de s'armer. Donc pour l'instant, je serais très nuancé, en tout cas sur une baisse des taux inférieure à 3, même si la Société Générale annonce aujourd'hui 2,99.
C'est l'opération qu'elle avait faite en février, qu'elle a reconduite en mars.
Ils avaient coupé les vannes pendant pratiquement 24 mois. Et là, au bout d'un moment, un grand directeur a dit, mais attendez, on n'a plus de crédit qui arrive, etc. Donc ils ont ouvert les vannes. Et c'est vrai que justement, avec cette problématique d'OAT, pour le moment, c'est assez rigolo. Aller à la Société Générale, il y a de très bonnes conditions, mais je pense qu'ils vont vite aussi revenir un peu en arrière. Et je dis toujours aux clients, si vous avez une banque avec qui ça se passe bien, actuellement, en tout cas, les banques font tout pour vous conserver. Voilà, ça c'est un point qui est très important. Donc n'hésitez pas non plus, si vous avez une offre à la concurrence, à challenger votre partenaire bancaire, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on le voit bien, on n'a pas envie d'avoir de décollecte dans les banques françaises.
Et est-ce qu'il y a des régions dans lesquelles, qui sont peut-être plus en avance que d'autres dans le cadre de ce printemps de l'immobilier, c'est-à-dire où les acheteurs passent vraiment à l'acte?
Oui, la Nouvelle-Aquitaine, plus 14% à peu près depuis le début de l'année. Donc on voit bien
que plus 14% de quoi exactement?
Aujourd'hui, de transactions qui sont effectuées de biens à la vente. On a même plus de 20, mais plus 14% sur la partie vraiment cession. Donc on voit bien que depuis le début de l'année, c'est très dynamique. Alpes-Côte d'Azur, plus 4%, donc ce qui est pas mal du tout, en tout cas au niveau
des
ventes.
Quand vous dites Nouvelle-Aquitaine, par exemple, c'est quoi, Bordeaux?
Oui, Bordeaux, bassin d'Arcachon, tous les environs. Alors, bassin d'Arcachon aussi, on a beaucoup de personnes qui ont attendu pour vendre pendant 2-3 ans parce que c'était pas le moment. Et c'est vrai que là, effectivement, on a à nouveau une forte accélération depuis le début d'année.
Puis il y a des prix qui ont pas mal baissé, j'imagine, aux alentours de Bordeaux,
alors on a eu moins 10%. Qu'il en soit, si on parle un peu des prix, on voit bien que c'est pas linéaire dans toute la France. Voilà. On voit bien aussi des régions qui commencent à réaugmenter leurs tarifs. Par exemple, c'est assez étonnant parce que le marché va mieux. Mais pour autant, faut pas oublier que on est très loin de ce qu'on avait connu auparavant, et c'est Montpellier. À peine le marché se sent mieux, que tout d'un coup les prix réaugmentent.
Oui, voilà. C'est ça. On voit. Voilà.
Et donc du coup, là pour le coup, ça fait partie des villes. On est dynamique, mais beaucoup moins que d'autres régions, parce que justement, il y a une flambée un peu des prix pour le moment.
Est-ce que c'est pas un peu le risque justement que les prix rejoignent les taux de crédit et que justement, quand ça baisse, automatiquement les prix réaugmentent?
Alors,
on pensait avoir eu un plateau en termes de price, et en fait, en réalité, on s'aperçoit que la réduction est beaucoup plus faible que prévu.
Moi, je pense que là, je fais vraiment confiance à mes partenaires qui sont à la fois les réseaux immobiliers traditionnels ou les réseaux de mandataires. Aujourd'hui, plus que jamais, en tout cas, on a vraiment besoin d'avoir des conseillers immobiliers qui expliquent à leurs clients que c'est pas parce que tout simplement ça va un petit peu mieux qu'on doit réouvrir les vannes au niveau des clients qui veulent, voilà, ça va mieux, je vais revendre mon bien et plus cher. Non, c'est pas la réalité. On le voit bien, cette année, en 2025, on espère qu'on fera 900 000 ventes. On en a fait un peu plus de 800 cette année, 850 si je dis pas de bêtises.
À l'échelle de la
ventes
France,
actées
marché,
sur toute la France.
Oui,
donc j'ai envie de vous dire qu'on avait 1,2 million pendant le Covid en 2021, mais on les aura plus. Donc attention, la vraie réalité, si vous voulez vendre dans l'année dans de bonnes conditions, soyez cohérent avec votre prix de cession, sinon malheureusement, vous risquerez de pas vendre.
Du coup, ça veut dire que les acquéreurs, ils ont encore aujourd'hui de la marge de négociation
Oui, bah, on le voit bien aujourd'hui en moyenne. Alors un peu plus sur les maisons et un peu moins sur les appartements. Mais en moyenne, on a à peu près 7% de négociations aujourd'hui qu'on peut traduire sur toute l'année 2024. Sur 12 mois glissants, on se rend compte qu'on avait à peu près plus 7% d'augmentation de négociations et à peu près 10% pour la partie maison. Alors bien sûr, c'est une moyenne nationale. Vous avez des endroits du côté de Bourges-Nenèvre ou dans le nord, du côté de Fourmies, où là, vous êtes même allé jusqu'à 15-20% de baisse de prix. Enfin... Voilà, tout à fait, parce que le marché... le marché avait beaucoup augmenté. Il faut savoir que dans des régions, on trouvait des maisons à moins de 100 000 euros encore. Aujourd'hui, en dessous de 130 000 euros, on a du mal à trouver des petites choses. Ou alors, c'est vraiment des petites pépites qui se vendent de gré à gré ou qui sont vraiment chassées, quoi.
Pourquoi il y a plus de potentiel de réduction, enfin, de négociation avec une maison? C'est quoi, par nature?
Les travaux, peut-être?
Il y a aussi un point, c'est que c'est aussi une question de commodité. C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, quand vous avez les appartements, etc., vous avez les emplacements, vous avez des commerces de proximité.
Les transports.
Voilà. En Ile-de-France, il y a aussi toutes ces zones un petit peu semi-rurales, j'ai envie de dire, où effectivement, même en Ile-de-France, on le voit bien, hein, dès que vous allez du côté de la Seine-et-Marne ou même dans le 78, dès qu'on est à 30-40 bornes de Paris, bah là, forcément, c'est moins bien, c'est un tout petit, même si c'est très desservi, mais quand vous faites plus d'une heure de route pour rejoindre Paris, bah, les prix sont pas les mêmes. Donc c'est un bien peu sûr. Plus facile de ces côtés-là. Et puis après, c'est aussi une question d'entretien et puis de vétusté. On a aussi, et on en parlera, je pense, beaucoup de maisons qui sont en vente, qui ont 20-30 ans. Et il y a quand même pas mal de travaux.
Voilà,
etc. Donc,
alors, qui sont les acheteurs aujourd'hui? Est-ce qu'on voit, on sait que le ventre mou du marché, c'est les primo-accédants. Est-ce que les primo-accédants sont de retour?
Les primo-accédants sont de retour, alors timidement sur le premier trimestre, mais là on voit. Puis avec les annonces en fait de l'élargissement du PTZ dans toutes les zones,
prêt à taux zéro, dans le neuf,
effectivement,
oui.
et ça c'est très positif.
Et aux maisons, pour la première fois
des deux côtés. Et je pense que ça c'est un très bon point parce que si on a à nouveau de la construction et on sait très bien qu'on avait passé des moments très difficiles, ça veut dire qu'on aura à nouveau dans 3-4 ans des biens à la vente, et donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Donc oui, déjà, c'est le premier signal qui est fort et qui est vraiment intéressant, c'est que les primo-accédants sont là. Voilà. Autre chose aussi qu'on a, c'est qu'on a également les personnes qui, à un moment... c'est toujours compliqué quand vous avez acheté il y a 4-5 ans à un taux de 1%.
Et oui.
Et qu'aujourd'hui, vous avez une maison, il vous reste 15 ans, et puis vous vous dites, les taux étaient à 4,5. Qu'est-ce qui se passait? On avait une bulle. C'est-à-dire que, à juste titre, les vendeurs disaient, je vais pas vendre. Parce que, effectivement, il n'y a pas d'intérêt pour moi. Voilà. Et là, on voit bien que comme les taux ont redescendu aux alentours des 3,99, 3,30 en fonction des projets, il y a aussi ce type de biens qui reviennent. Donc, on a ces vendeurs qui disaient, je veux une pièce plus grande qui bougeait pas trop. Là, effectivement, ils se reprojettent.
Même s'ils ont acheté leur premier bien avec un taux de 1%, ils se disent, j'ai besoin d'une pièce en plus, je revends, je prends un crédit.
Oui, parce qu'on le voit bien aujourd'hui, il ne faut 3%. Pas oublier la réhabilitation, ce n'est pas si facile. Les matières premières ont beaucoup augmenté. Donc, il faut toujours se poser la question entre extension, réhabilitation ou revente pour un autre bien.
Et toujours sur la typologie des acquéreurs, Sylvain vous a posé la question des primo-accédants. Xavier, les investisseurs locatifs.
Alors là, on ne les voit pas.
Carrément
voilà.
Pas,
on les voit très peu, il faut être clair.
Ça devient dissuasif d'investir maintenant.
C'est pas évident aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a pas mal de dispositions, on a le Pinel qui s'est arrêté.
Dans le neuf,
effectivement,
et on n'a pas de successeur.
Le loueur meublé non professionnel qui avait certains avantages, on est en train également de les revoir aujourd'hui.
Absolument.
Donc effectivement, l'investissement locatif sur la problématique du bien à la location, on avait des zones où on avait déjà des loyers qui étaient modérés, ou en tout cas on était sur les zones planchers. Et puis il n'y a pas de bien, il faut qu'on soit quand même très clair, de 2021 à 2025, aujourd'hui c'est moins 55% de biens à la location sur le marché locatif, sur le parc locatif. Donc on voit bien qu'aujourd'hui il y a une réelle problématique par rapport à la location et aux investisseurs tant que ça. L'investisseur a l'impression aujourd'hui, pense que l'État le considère comme un rentier. Voilà. Et ça c'est une vraie problématique aujourd'hui puisque c'est pas le cas.
Les investisseurs locatifs aujourd'hui, c'est quand même dans le parc locatif privé, les acteurs déterminés. Hein, on estime à 62% les locataires.
J'allais dire 60%
du parc locatif privé qui seraient éligibles au logement social. On peut pas faire sans les investisseurs locatifs. C'est pas une bonne nouvelle qu'ils désertent l'investissement. Est-ce que pour pousser, est-ce qu'ils désinvestissent aussi également?
Alors. Oui et non, parce qu'ils investissent dans d'autres choses qui sont pas forcément la pierre à proprement dit. Voilà, ils vont dans d'autres éléments, des placements SCPI, de la crypto, des pierres, des parts de SCPI en forêt, des choses comme ça. Ils font du déficit foncier, donc on peut pas dire qu'aujourd'hui ils soient complètement pas là, mais ils sont plutôt en attente. Voilà, ils sont en attente de quelque chose. Et c'est vrai que Valérie Létard, il y a à peu près une semaine,
la mission
parlementaire a été lancée.
C'est la ministre du logement, oui, c'est ça.
Tout à fait, la ministre du logement a lancé une grande mission où elle veut des résultats rapidement, parce qu'elle veut intégrer ça dans
la
loi de finances.
Futur statut du bailleur privé, statut notamment fiscal.
Bien sûr, alors, et je pense que statut, en tout cas, il est vraiment important qu'on puisse le trouver. Voilà, on l'attend. Et si on peut l'avoir en plus actif dès le 1er janvier 2026, ça serait une très bonne nouvelle.
C'est l'objectif.
C'est l'objectif. Alors après, il y aura des conditions, bien évidemment. Plus vous aurez des biens qui sont avec une très bonne note énergétique classée ABC, plus forcément, l'investisseur aura certainement des subventions plus importantes. C'est une bonne chose. Celui qui mettra également des loyers qui sont plafonnés, il y aura des intérêts. Donc on n'a pas encore tout le contour de la loi. Ce qu'on sait en tout cas, que c'est très attendu et on en a besoin.
Merci beaucoup Xavier Belbeau, vous restez avec nous pour la deuxième partie de l'émission. Justement, on posera des questions un peu plus précises justement sur les porteurs de projets. Vous allez retrouver les amis, les experts qui répondent à vos questions. Vous posez vos questions et on vous y répond. C'est dans le groupe Facebook Les Proprios. On se retrouve tout de suite après.
Vos questions, nos réponses.
Eh bien les amis, voilà, de retour dans notre 63e édition du Grand Rendez-vous de l'Immobilier. Je vous l'ai dit, chaque mois, vous êtes de plus en plus nombreux à poser vos questions. Mais c'est normal, puisque nous avons prévu des experts pour vous y répondre. Bien sûr, celui qui s'y colle, c'est notre producteur préféré, c'est l'ami Vincent. Comment ça va, Vincent ?
Ça va très bien, bonjour.
Toujours là, Vincent. Ouais, voilà, depuis le début. Depuis notre premier numéro, c'était il y a 5 ans maintenant, accompagné bien sûr de ma complice de Capital, Christine Lejoux. Ça va Christine ?
Ah bien, toujours Sylvain, merci.
Voilà, nous avons une notaire qui est sur le plateau, Maître Élodie Frémont, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes notaire à Paris, vous êtes également porte-parole de la Chambre des notaires de Paris. Et vous allez d'ailleurs très vite inaugurer les nouveaux locaux refaits à neuf. Ça va être magnifique. Alors, ma chère Élodie, il est de tradition dans le Grand Rendez-vous de l'Immobilier que la question vous soit posée par notre ami Vincent.
Ouais. Une question pour vous, Élodie Frémont, de Marine de Clermont-Ferrand. Si j'achète, nous dit-elle, aujourd'hui un appartement noté E sur le DPE, le diagnostic de performance énergétique, avec l'objectif de le revendre dans une quinzaine d'années sans le mettre forcément en location, est-ce que je prends des risques, celui d'une revente peut-être à perte, mais encore, elle se pose la question.
Alors, il est vrai que sur les logements énergivores, on n'a pas beaucoup de recul sur les volumes, enfin, pas tellement les volumes de vente. Ça, on sait qu'ils ont baissé. Par exemple, on a fait une petite étude il n'y a pas très longtemps, il y a un peu moins d'un an, sur les notés G, juste après l'enclenchement, on va dire, des dispositifs contraignants en matière locative. Hein. Donc, c'est-à-dire juste après l'été 2022. Et on a vu une chute assez conséquente du volume de transactions. C'est-à-dire, dans un premier temps, une très forte hausse. 56% des ventes étaient des logements notés G, F, autrement dit FISA, avant l'interdiction de louer qui est tombée cette année, le 1er janvier 2025. Et puis, tout de suite après, l'arrêt net, pourquoi ? Alors, ce que je répondrai à la question posée, l'arrêt net, parce que vous avez moins de candidats pour votre acquisition, enfin, pour votre potentielle vente. Les logements, eux, vont devenir non décents en 2034. 2034, c'est dans moins de 15 ans. Ans. Donc, dans moins de 15 ans, 2034, déjà, dédiez à un acquéreur qui ne peut être qu'un utilisateur et pas quelqu'un qui va faire de l'investissement locatif. Donc déjà, vous réduisez votre panel de candidats. Et sur cette acquisition, sur cet utilisateur, il y a fort à parier que ce sera forcément ou très vraisemblablement un primo-accédant. Pourquoi ? Parce que lui, il a plus d'avantages à acheter des logements énergivores. Plus d'avantages, j'allais me dire lesquels. Déjà, à commencer par la négociation du prix. Ensuite, parce que MaPrimeRénov et tout ce qui est investissement dans le but, évidemment, d'améliorer la notation, est fortement aidé. Et d'autant plus, troisième avantage, par votre banquier. Quand vous êtes primo-accédant, votre banquier va favoriser l'étiquette énergétique à la hausse. Donc, il va peut-être plus être moins exigeant sur l'apport et peut-être plus facilitant sur le crédit accordé. Vous savez qu'aujourd'hui, les crédits accordés sont principalement sur le prix. On n'a pas de crédit accordé ni sur ce qu'on appelle les frais, c'est-à-dire les taxes, et ni sur les honoraires agences. Donc, ça limite.
Et quelle décote, maître, le primo-accédant peut espérer sur un logement énergivore, par exemple sur le logement E de Marine, si elle l'acquiert, décote qu'elle, elle devra consentir, du coup?
Absolument. On a plusieurs décotes aujourd'hui qui sont un outil, un levier pour les acquéreurs de logements énergivores. Moi, je vous dis ce que je vois aujourd'hui. Les E, c'est bon, dans moins de 15 ans, mais vraisemblablement, ce sera la même logique. La première décote, c'est évidemment que lorsque vous avez un logement énergivore, vous avez des préconisations par diagnostiqueur. Et ces préconisations sont souvent adjointes avec des devis. En tout cas, si...
Préconisation de travaux.
Hein, oui, voilà. Absolument. Oui. Et contrairement à ce que tout le monde peut croire, ce sont pas des doubles vitrages qui vont améliorer votre notation. C'est très souvent l'isolation des murs, à l'extérieur, à l'intérieur, bref, ce qui touche à des parties communes.
Bah, quand on peut. Le problème de la rénovation par l'extérieur, surtout à Paris, vous connaissez bien le sujet, c'est un vrai sujet.
Hein. Ah ben, alors justement, deuxième outil, deuxième levier de négociation pour votre acquéreur, c'est le fameux PPT, plan pluriannuel de travaux. Dans ce plan pluriannuel de travaux, on s'était dit, ah ben, c'est comme le DTG, diagnostic technique global, qui était dédié à faire des travaux de grande envergure sur une copropriété. Alors on pense souvent toiture, ravalement, mais non, pas que. Isolation, rénovation de la chaudière. Changer les énergies qui seront à adopter dans l'ensemble de la copropriété. Le DTG a eu peu de succès, pardon de le dire, parce qu'il n'y avait pas de sanctions financières. Donc, peu de succès. Aujourd'hui, on a le PPT avec des obligations qui sont assez contraignantes et on pense à croire, en tout cas les notaires pensent, qu'il y aura certainement des décrets, voire des arrêtés qui contraindront financièrement à son application. Qu'est-ce qu'on a dans ce PPT ? Eh bien, on a des travaux d'amélioration énergétique. Donc, autrement dit, la copropriété va devoir voter des travaux pour isoler les murs, soit l'intérieur, soit l'extérieur, parce que l'extérieur, comme vous l'avez dit, si on est sur le périmètre parisien, et pas que parisien d'ailleurs, quand vous êtes dans un périmètre de protection des monuments historiques, ça évidemment génère des contraintes administratives qui sont bien plus conséquentes qu'une simple autorisation en Assemblée Générale des copropriétaires, ou alors améliorer l'intérieur, c'est-à-dire quoi ? C'est ma charpente qu'il va falloir isoler davantage, ou ce sont les murs à l'intérieur.
Sans compter les pertes en mètres carrés que ça peut générer.
Alors,
c'est vrai qu'à 12 000 euros du mètre, par exemple, je prends Paris, on est assez peu enclin à réduire...
Pour répondre à la question, soit votre acquéreur, il va dire, mais attendez, moi j'ai le PPT, on me dit qu'il faut refaire, je vous dis n'importe quoi, la charpente. Il se trouve que mon appartement, enfin l'appartement que je regarde, il est au deuxième étage. Moi, la charpente, pardon, mais ça va générer un coût de temps. Au tantième, je vous dis n'importe quoi, 20 000, 40 000 euros. Étalé dans le temps, peu importe, mais 20 000, 40 000 euros. Ça va être son outil de négociation. Pardon, mais sur un prix, allez, 12 mètres carrés, 120 000 euros, je le fais à la louche. 120 000 euros, moi, je vais négocier. Voilà, mon coût travaux sur 5 ans il est de 40 000 euros. C'est soit mon crédit que j'augmente, soit c'est vous, madame, qui me faites une fleur sur le prix mètre carré. Bon, je ne vous dis pas qu'elle va réduire son prix de 40 000 euros, évidemment, votre vendresse, mais elle va faire un geste. Deuxième possibilité, c'est de dire, OK, moi, le PPT, j'en fais mon affaire. Maintenant, c'est moi qui m'occupe de la rénovation, de l'amélioration, pour passer en D, en C. Et dans ce cas-là, comme vous l'avez dit, mes 12 mètres carrés vont peut-être devenir 10 mètres carrés. À 10 000 euros le mètre, ça fait donc 20 000 euros de moins. Donc, ce sont des outils de négociation que l'on voit pratiquer aujourd'hui, que les choses soient très claires.
C'est clair.
Et dans les proportions, au minimum 10% du prix annoncé.
C'est donc un sacré levier.
Surtout sur des petites surfaces.
Est-ce que c'est plus vrai dans les zones tendues plutôt que dans les zones détendues ?
Oui, plus vrai dans les zones tendues.
Mais bien sûr.
Oui, pourquoi ? Parce que dans les zones non tendues, il y a moins d'investissements locatifs. Donc, avez forcément des utilisateurs.
Parce que là, c'est souvent des investisseurs qui essayent de faire une opération de requalification en faisant une forme de marchand de biens.
Absolument.
Qui ne dit pas son nom, quoi. J'achète un appartement énergivore.
C'est exactement ça.
Je refais les travaux, je le retape, et puis j'espère le vendre soit un peu plus cher.
On en a deux types. Tout ce que vous avez dit, le profil, en effet, du marchand de biens, et le primo-accédant qui se dit, faute d'avoir un crédit qui me permette d'avoir suffisamment de trésor, je vais essayer de négocier le prix, c'est-à-dire le foncier, auprès du vendeur. Donc, je cible. Quand ils font des alertes sur des logements énergivores, parce qu'il y a plus de propension à négocier le prix.
Bien sûr. Direction Morteau.
Oui, une autre question Morteau, pour vous.
On va manger de la saucisse.
C'est ça, Jean.
C'est une saucisse de Morteau avec une purée de pois cassés.
C'est pas mal.
C'est juste extraordinaire. Vous savez, on parle cuisine ici, mon cher.
Oui, oui, c'est cuisine et immobilier. C'est le nouveau concept.
Pas mal.
Alors Jean est à Morteau et vous pose une question, maître Élodie Frémont. Il est propriétaire d'une résidence principale et d'une résidence secondaire. Jean nous dit « Je souhaite les vendre pour acheter une nouvelle résidence principale. Serais-je imposé sur les plus-values de cession de la résidence secondaire ?»
Ben oui, mon capitaine, c'est l'un ou l'autre.
Pas de chance, hein.
Vous êtes
même s'il l'utilise pour acheter sa résidence.
Ah ben oui. En fait, c'est pas cumulatif. D'ailleurs, c'est pas cumulatif, c'est exclusif. Les cas d'exonération en matière de plus-value, ils sont pas énormes. Hein, on va dire grosso modo, il y en a 4. Même s'il y en a un qui a l'air de se profiler. Le premier d'entre eux, le premier cas, c'est l'exonération pour détention d'une résidence principale. Quelle que soit la durée de détention, je me permets de bien préciser ce point, parce que très souvent on nous entend dire « Ah oui, mais c'est un an de détention. »
Oui, pour rester un an ou deux.
C'est pas écrit dans les textes. Il n'y a rien qui écrit ceci.
Imaginons que je me domicilie 15 jours après, je décide de vendre.
Oui. Eh bien, vous êtes exonéré de plus-value. À vous de prouver que vous n'avez pas fraudé le fisc. Peut-être que vous aurez un petit contrôle pour vérifier, une proposition de rectification, pour vérifier que c'était vraiment votre résidence principale pendant 15 jours.
Parce qu'il fallait rester au minimum une année pour...
Disons que passer une année, il n'y a pas de risque.
Oui.
C'est ça, ce qu'on vous garantit. Parce que forcément, que passer une année, vous avez forcément déclaré vos revenus à cette adresse-là, ou alors vous n'êtes pas très malin. Mais si vous voulez que ce soit votre résidence principale, il faut quand même être cohérent dans vos déclarations. Donc, vis-à-vis du fisc, pour vos déclarations de revenus, l'année suivante, vous avez forcément déclaré.
Mais dans le texte, il n'y a pas de durée définie.
Non. Aucune durée définie. Par contre, il y a eu des redressements quand on s'amuse à faire la culbute deux fois, trois fois dans la même année, ce qui ne paraît pas complètement incohérent.
Donc,
c'est le premier cas d'exonération. Le deuxième que vous évoquiez, c'est je vends ma résidence secondaire pour investir dans ma résidence principale. Sauf qu'on oublie qu'il n'y a pas que deux conditions, il y en a trois. Il ne faut pas que je sois propriétaire de ma résidence principale dans les quatre dernières années. Donc, je colle pas, je coche pas les cases. Donc, c'est soit j'ai été propriétaire dans les 4 ans, et auquel cas, cette exonération-là ne fonctionne pas. Soit j'ai ma résidence principale, pas de souci. Sur la résidence secondaire, il ne faut pas être propriétaire dans les 4 ans. Il faut vendre cette résidence dite secondaire ou investissement locatif. Et il faut réinvestir le prix dans l'achat.
Maître, qu'on comprenne bien. Je ne suis pas propriétaire de ma résidence principale, mais je suis propriétaire d'une maison de campagne.
Oui.
Je peux... avoir l'exo des plus-values si je prouve que je réemploie cette somme pour une résidence principale que je n'ai jamais eue ou que je n'ai pas eue dans les 4 dernières années.
Absolument.
Et bien ça, c'est une information.
Je ne suis pas venu pour rien alors.
J'étais persuadé que dans la mesure où on ne détenait pas directement sa résidence principale, on ne pouvait pas bénéficier de l'exonération. Mais si on affecte le produit de la vente d'une maison qu'on aurait pu hériter éventuellement, qu'on a revendue, on peut bénéficier de l'exo.
Oui. Mais c'est vrai qu'on oublie souvent le fait que l'on ne doit pas être propriétaire de sa résidence principale dans les 4 dernières années.
Ça, c'est le deuxième cas de figure.
Oui, deuxième cas de figure. Troisième cas, ce sont pour des cas particuliers qui sont les expatriés. Les expatriés qui ont loué très souvent leur résidence principale pour une courte durée, évidemment. Très souvent, c'est du meublé. Pas touristique, mais du meublé. Et là, les expatriés ont des exonérations. Ça paraît quand même approprié parce qu'ils vont revenir et que ça, c'est par la force des choses. Donc, en effet, lorsqu'ils reviennent et qu'ils vendent par la suite, alors vous avez raison, ça peut être dans les 15 jours, sans préméditation, mais ils sont quand même exonérés pour le bénéfice de la résidence principale. Et la quatrième condition, qui n'est pas très heureuse, c'est dans le cas de séparation. Si vous avez été contraint de quitter le domicile qui était votre résidence principale, que vous êtes en location ou que vous avez acheté quelque chose, en général, on n'a pas le temps d'acheter, celui qui est parti est exonéré de la résidence, du paiement de l'impôt sur la plus-value pour résidence principale, dès lors qu'il justifie, en effet, que c'est dans le cadre d'une procédure et que peu importe le délai, j'allais dire, de mise en vente. Parce que, en règle générale, là, pour le coup, les textes sont assez stricts en disant, si vous avez tenté de vendre votre résidence principale parce que vous êtes muté et que vous êtes allé acheter un bien à Grenoble, on vous demande de justifier le fait que vous avez mis en vente cette résidence principale il y a moins d'un an et que vous n'arrivez pas à la vendre. C'est pas de votre faute, mais voilà, ça se vend pas, le marché, etc. Sûr. Donc là, il faut en justifier. Dans le cas d'une séparation, ça n'est pas le cas. Vous n'avez pas justifié cette situation.
Merci beaucoup. Merci. Élodie Frémont, notaire à Paris et aussi porte-parole des notaires du Grand Paris.
Merci à vous.
Avec lesquels on apprend pas mal de choses, justement. Alors là, franchement, revenez souvent, mon cher maître. On va se retrouver tout à l'heure pour notre prochaine séquence, bien évidemment, notamment avec notre invité. Vous êtes bien entendu dans le grand rendez-vous de l'immobilier. On se retrouve tout de suite après ça.
Vos questions, nos réponses.
Eh bien voilà, chaque mois, comme vous le savez, vous posez vos questions, nous vous y répondons. D'ailleurs, vous les posez sur le club Facebook Les Proprios gérés par Capital, toujours accompagné de notre Vincent Favreau National. Comment ça va, Vincent ?
Ça va très bien.
Voilà, on a beaucoup de questions qui viennent, bien évidemment, et toujours accompagné de notre super journaliste de Capital, avec qui j'ai le plaisir d'animer cette émission. Comment ça va, Christine ?
Toujours très bien, Sylvain, merci
voilà.
beaucoup.
Voilà, mieux ce serait de la gourmandise. Hein,
exactement.
Faut mieux être positif en ce moment. Hein.
C'est clair.
On va faire de la méthode Coué. Nous recevons une avocate, Emmanuelle Lefebvre, sur le plateau. Bonjour,
bonjour.
Emmanuelle. Je suis ravi d'être avec vous. Vous nous connaissez depuis plusieurs années, puisque vous venez régulièrement sur nos plateaux. Il y avait un petit moment, quand vous n'avez pas vu, nous avez manqué. Vous êtes avocate spécialiste de l'immobilier. Et comme vous le savez... il est de tradition que ce soit Vincent qui vous pose la première question. Je pense qu'on va aller aller du côté de la S Saint-Étienne.
Ouais, à Saint-Étienne, comme on dit là-bas.
À Saint-Étienne.
Ouais, à Saint-Étienne. William de Saint-Étienne a une question pour vous, Emmanuel Lefebvre. Dans ma copropriété, deux copropriétaires ne paient plus leurs charges, nous dit-il. Le syndic a engagé une procédure contre eux, mais demande en AG aux autres copropriétaires d'avancer de l'argent pour couvrir les impayés de charges des deux copropriétaires. Est-ce qu'il en a le droit ? C'est la question de William.
Donc oui, il en a le droit. Au contraire, il a même l'obligation s'il y a un problème par rapport à la trésorerie de l'immeuble. Parce que alors notamment, plus la copropriété est plus petite, plus il y a des difficultés, puisque quand on est 2 sur 10 ou qu'on est 2 sur 50, forcément, les proratas sont pas les mêmes. Mais c'est-à-dire que si ces copropriétaires ne payent plus leur charge de copropriété, à partir de ce moment-là, il y a un trou dans la copropriété par rapport à toutes ces charges qui ne sont pas récupérées. Et malheureusement, il peut être demandé, lorsque ça devient important, aux copropriétaires de venir compenser les impayés de ces copropriétaires. Et à partir de ce moment-là, il y a des appels de fonds qui sont faits en copropriété, sachant que, bien entendu, les copropriétaires récupéreront ensuite, lorsqu'on récupérera sur les copropriétaires les impayés, forcément, eux-mêmes vont payer finalement aussi cet appel, et en même temps, récupéreront, s'ils arrivent à le récupérer, et des années après. Donc c'est vrai que c'est difficile pour les copropriétaires, ils ont du mal à le comprendre.
Des années après,
ça peut être des années. Franchement, en ce moment, c'est très très difficile. Alors ce type de questions, je l'ai quasiment toutes les semaines, parce que forcément actuellement les charges de copropriété c'est lourd, donc il y a beaucoup d'impayés, et la difficulté qu'on a actuellement, c'est que les délais en plus contentieux sont très longs.
Et qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe au bout d'un certain temps ? Imaginons par exemple qu'on ait des propriétaires qui ne payent pas leurs charges pendant des années. Propriétaires occupants,
alors,
comment on fait ?
Le problème,
on saisit l'appartement.
C'est toute la difficulté. C'est-à-dire que, au final, même si on a une belle décision, et bien des fois, on n'a pas juste envie de l'encadrer sur le mur, mais on veut pouvoir faire exécuter. Si les gens sont pas solvables, et bien à ce moment-là, il ne reste plus que la saisie immobilière. Donc ça veut dire que une fois
leur solvabilité, c'est le bien dont ils disposent.
Voilà. Mais la difficulté, c'est que les années, on peut avoir des décisions, parce qu'en plus, quand des copropriétaires qui font traîner les dossiers, on peut avoir 2 ans des fois avant d'avoir une décision. Au bout des 2 ans, et finalement, il faut enclencher une saisie immobilière et on repart à peu près sur 2 ans de procédure pour avoir la saisie immobilière. Donc, la vente.
Mais maître, vous parliez tout à l'heure du sujet de la taille de la copropriété.
Oui.
Effectivement, si on a 2 copropriétaires qui ne paient pas leurs charges sur 50, ça va être assez dilué, la prise en charge par les autres copropriétaires des impayés de charges. Mais si on est sur une copropriété de 4 lots, C'est violent pour les deux autres copropriétaires de prendre en charge.
Très violent, et puis ça dépend. Et par exemple, s'il y a eu des travaux, des choses comme ça, donc il peut y avoir des sommes extrêmement importantes qui peuvent être dues par ces copropriétaires, et ça pose une vraie difficulté parce que eux, en plus de leurs charges, se retrouvent à devoir avancer pour le compte des autres. Sauf que si le syndic ne le fait pas, il peut pas faire d'avance de trésorerie non plus. Donc si vous voulez, s'il y a 1000 euros qui doivent rentrer, les 1000 euros doivent rentrer. S'il y en a, mettons, 200 qu'on n'arrive pas à faire rentrer parce que les procédures sont longues, ou parce qu'on a des gens qui sont pas solvables, ou parce qu'on a des problèmes, par exemple, des fois de succession, ou des problèmes comme ça. Des fois, ça peut être extrêmement long, et on est obligé de demander aux autres, parce qu'il faut bien que la trésorerie, elle soit quand même à jour pour pouvoir payer les charges de copropriété.
Il n'y a pas de solution, là.
Il n'y a pas beaucoup de charges.
Au bas mot, on est parti sur 4 ans, quoi.
Ouais.
Et c'est une décision du syndic qui s'applique obligatoirement aux copropriétaires s'il n'y a pas un vote en...
Si. Il y a un vote en AG.
Alors, en fait, moi, je dis non, alors, dans ce cas.
Voilà, c'est ça. Le syndic, en fait, si vous voulez, il pourrait le faire dans le cadre de son pouvoir d'urgence si vraiment il y a une vraie difficulté dans le cadre de l'administration de la copropriété. Ceci étant, ils le mettent toujours en assemblée générale, ce qui est un peu logique pour que les copropriétaires puissent voter. Ceci étant, s'ils ne votent pas, ça veut dire que les appels de fonds pour venir, justement, compenser la trésorerie qui n'est pas rentrée ne rentrent pas, et le syndic ne peut pas payer toutes les factures.
D'accord.
En fait, La difficulté, elle est là. Alors, généralement, lorsqu'on demande ça, il commence à y avoir un impayé important ou même très important. Parce qu'avant, on essaye avec les avances de trésorerie ou de jouer un petit peu sur, sur la situation.
Mais on est d'accord que, in fine, c'est la saisie de l'appartement.
Oui. S'il n'y a pas d'autres moyens. Oui, ça arrive. Ouais. Oui, oui, moi, je le fais régulièrement.
C'est pas, ah oui, quand même. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on fait si c'est des propriétaires occupants? On les expulse?
Bah oui, c'est ça, exactement.
Bah, c'est chaud, hein.
Voilà. Ouais. Mais il y a des situations très particulières. Il y a des situations également, j'en ai un récemment, là. Eh bien, là, c'est occupé, mais c'est du Airbnb. Donc, impossible d'arriver à récupérer les loyers. Le propriétaire insolvable, impossible de récupérer aussi. Et puis, on se retrouve comme ça, donc obligé aussi de faire une saisie immobilière sur ce bien. Alors, heureusement, quand on est encore à Paris, j'oserais dire que les prix restent quand même des bons prix et des copropriétés qui peuvent récupérer. Mais parce qu'il y a des fois où c'est pas toujours le cas.
Merci. Mon cher William, même si je peux me permettre de vous appeler Willy, il faut sauver Willy de Saint-Étienne. Comme ça, ça me prend. Je me dis, voilà, t'es plus étonné, hein, d'un seul coup.
C'est la fièvre.
Voilà, Saint-Étienne avec un sujet. Mais c'est un sujet vraiment global et souvent, on n'y prête pas attention, mais quand on voit les délais de recours...
C'est pour ça qu'il faut vraiment...
C'est pas simple du tout. On se met à la place des autres copropriétaires, parce que, bien évidemment, on peut comprendre que des copropriétaires soient dans l'incapacité matérielle de payer leurs charges, ça peut arriver. Mais qu'effectivement, les autres aussi ont les mêmes soucis et que, quelque part, c'est pas évident. On va prendre la direction de Paris avec Françoise, qui nous pose une question... sur le congé de son locataire.
Ouais, Françoise nous dit qu'elle a donné congé à son locataire il y a 6 mois. Le locataire demande s'il peut rester jusqu'en septembre, le temps que les travaux de son nouveau logement soient terminés. Françoise, elle est prête à accepter, mais comment s'assurer qu'il partira bien en septembre? Est-ce qu'il lui faut signer un nouveau bail? Est-ce qu'il lui faut faire un avenant à celui qui a été résilié? Est-ce qu'il faut lui demander un courrier dans lequel il s'engage à partir de septembre? Françoise a plein d'idées, mais qu'est-ce qu'elle peut faire pour que légalement soit bien bordé et que ce locataire parte en septembre comme il s'y est engagé oralement.
Ça doit arriver ça aussi.
Oui. Alors après, on peut jamais s'assurer qu'il partira bien en septembre. Ça, j'oserais dire que c'est que la bonne volonté et la bonne foi de ce locataire. Ceci étant, bien sûr qu'en fait, on peut accepter, puisque de toute façon, c'est pas parce que le bail vient à expiration que c'est pour ça que le locataire, on peut le faire partir dès le lendemain. De toute façon, sinon, il faut aller devant le tribunal aussi pour faire valider le congé et obtenir une expulsion du locataire, ce qui met également... peut-être 18 mois à obtenir. Donc, j'oserais dire que oui, bien entendu, il faut s'entendre avec le locataire. Alors, par contre, on resigne pas de bail, on resigne pas d'avenant, mais on se fait un accord à deux. C'est-à-dire qu'on explique bien qu'on n'a pas laissé le bail se poursuivre ou qu'on n'a pas accordé un nouveau bail, mais qu'on est bien d'accord pour avoir mis fin au bail au jour de la résiliation du bail, qu'on a accordé des délais pour partir et que ce délai pour partir, effectivement, expire. Par exemple, dans notre cas,
c'est un acte sans privé.
On peut se faire un courrier à deux, comme quoi, en fait, on peut, si vous voulez, à deux, se mettre d'accord en disant qu'il y en a un.
Des courriers recommandés.
Alors, bon, bah, l'avocat, c'est sûr que c'est bien parce que ça fait un protocole d'accord et que ça vaut décision de justice. Donc, ça veut dire que dans ces cas-là, on peut tout de suite le faire exécuter. Maintenant, les gens vont pas forcément aller voir un avocat pour ça, ce qui peut être aussi compréhensible. Donc, dans ces cas-là, ils s'échangent des courriers ou sur un même courrier également, ils remplissent ça en disant que ce sont des délais pour partir. Et non pas une continuité du bail. Oui, et alors après, c'est vrai que c'est toujours... il vaut mieux s'entendre de toute façon avec son locataire qui est prêt à partir et lui donner des délais pour lui accorder, si vous voulez, cette possibilité-là, plutôt que de toute façon s'engager dans le contentieux, puisque le contentieux n'est plus une solution rapide et efficace apportée aux justiciables.
Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup Emmanuel Lefebvre. On vous retrouve votre cabinet spécialisé dans l'immobilier à Paris et puis sur blob-avocat.com. Voilà.
Blob, c'est comme le blob, c'était le film, vous savez.
Oui, c'est exactement. Voilà.
On vous l'a déjà fait celle-ci.
Oui, voilà. Ouais,
ah, c'est toute ma jeunesse, ça. Le blob. Voilà, merci Emmanuel Lefebvre. Voilà, avocat, spécialiste dans l'immobilier. Le bon réflexe que vous devez avoir justement sur tous les sujets immobiliers. On va se retrouver dans quelques instants pour la suite de notre grand interview avec Xavier Belvaux, le directeur général de WeInvest France. À tout de suite.
La grande interview.
De retour sur le plateau avec notre invité, notre grand invité du jour pour ce numéro du Grand Rendez-vous de l'Immobilier du mois de mars. Bonjour Xavier Bellevaux.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, d'être resté avec nous sur le plateau avec notre complice du jour, Christine Lejoux, journaliste à Capital. Christine, on parle beaucoup en ce moment des passoires thermiques. Un vrai sujet.
Absolument, surtout parce que les passoires thermiques qui sont étiquetées G sur le diagnostic de performance énergétique, le DPE, eh bien, elles sont interdites de mise en location depuis le 1er janvier 2025. Xavier, ça se ressent comment sur votre activité de gestion locative, hein, cette interdiction ?
Alors déjà, ça se ressent sur le fait qu'on a un parc locatif qui est amoindri depuis plusieurs années. Voilà, je le disais tout à l'heure, on a perdu à peu près 50% de biens à la location sur toute la France. Donc ça remet toute une économie, ça rebat les cartes de toute une économie, ça c'est vraiment une grosse difficulté. Auquel cas, on a même deux clans qui s'affrontent aujourd'hui. Ceux qui disent qu'on devrait quand même autoriser les biens à la location, même catégorisés G, pour redonner et remettre une économie en place et reloger les personnes. Et ceux qui tiennent bon et qui disent stop. Il faut arrêter, il faut avancer. Et c'est bien que cette chose soit mise en avant.
En même temps, il y a des Français qui... Si le marché s'est rétréci de moitié, ce qui est vrai... ça veut dire qu'on a des gens qui sont vraiment dans des difficultés graves, extrêmes, de location. Mais on rapporte des étudiants qui vivent dans leur voiture.
Oui, dans des parkings.
Qui vivent dans des Airbnb, dans des situations. Oui.
Alors, ce qui est nouveau, c'est que c'est des personnes qui travaillent.
Oui, qui travaillent.
C'est ce qui est nouveau, ce qu'on doit préciser, c'est ça.
Alors, la plupart travaillent. Les jeunes actifs renoncent à aller dans les grandes villes parce qu'ils ne trouvent pas de logement. Les étudiants renoncent à leurs études. Ils étaient 17%. Ils seront peut-être 20% au mois de septembre prochain. Enfin, c'est vraiment une horreur, quoi. On a l'impression qu'on marche un peu.
Et vous parliez des étudiants, c'est qu'arrivé à un moment, on a beaucoup mis en place le co-living. Ouais. Donc, on se retrouvait à pouvoir, en fait, diversifier. Mais comme l'investisseur se fait plus rare, on a une diminution du co-living depuis 24 mois. Ouais. Donc, du coup, on a encore moins de biens.
D'accord.
Et puis, quand on a un locataire aujourd'hui, la problématique du locataire qui est dans un bien, qui veut acheter. Ben, pendant un an et demi, il pouvait pas acheter parce qu'en réalité.
Les taux de crédit étaient.
Voilà. Et souvent, quand on est en première acquisition, quand on est souvent entre guillemets, en région, on se dit, pourquoi pas faire construire? Tout ça, c'était pas possible. Donc, on s'est retrouvé dans une espèce de bulle spéculative. Et c'est vrai que dès qu'on a un bien maintenant à la location, la problématique, c'est qu'on se retrouve avec la qualité, même s'il y a un certain nombre de cautions qui existent, etc. On se retrouve avec la qualité du premier dossier qui va être choisi. Et on retrouve des choses qu'on avait un peu oubliées il y a une quinzaine d'années et qui se remettent en place maintenant. Donc, c'est comme si on faisait un pas en arrière. Et ça, c'est vraiment problématique. Voilà.
Comment on fait pour relancer le marché locatif? C'est quoi la solution, justement? Vous seriez partisan de faire un moratoire sur les passoires énergétiques? Beaucoup le disent, hein, parce que ça représente quand même 570 000 logements. C'est pas neutre du tout.
Et bientôt, on va avoir les LEF qui alors vont être interdits.
Dans certaines régions, c'est un tiers du parc locatif.
Mais c'est toujours une raison qui est compliquée. Enfin, de prendre parti, c'est compliqué, parce qu'en réalité, on pourrait très bien imaginer de dire il y a une partie des loyers qui sont ponctionnés directement en fait par l'État et que on met en place un devis sur le cadre de l'amélioration énergétique du bâti et on pourrait très bien dire pendant 3 ans vous n'avez pas 100% de votre loyer vous bailleur vous en avez que 60% et en fait la prime rénov fait une avance et elle est auto remboursée mais ça voudrait dire aussi qu'il faut absolument que nos artisans RGE parce qu'on a toujours une problématique dans nos métiers
reconnu
garant de l'environnement mais soit joue le jeu parce qu'après il y a des questions aussi de trésorerie parce que une des première problématique que l'on a, je trouve que cette mesure sur la prime rénov et tout ce qui a été mis en place est très bien, mais par moment c'est très long. Et quand vous êtes client...
De trouver des artisans disponibles pour faire les travaux.
Et puis aussi de retoucher les subventions. Oui. Et ça, c'est une autre problématique. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut quand même faire l'avance de trésorerie. Donc aujourd'hui, on sait très bien que dans le contexte actuel, on a un peu du mal. Et puis, on voit tellement de choses qu'on ne sait jamais si c'est les bons travaux qui sont orchestrés. C'est pour ça que je rapproche toujours, je dis toujours aux clients, rapprochez-vous de professionnels de l'immobilier qui ont des partenaires aujourd'hui, On peut avoir maintenant des prêts DPE qui sont calculés. On peut, avant même la signature d'un mandat, on peut aussi voir quels sont les travaux qui vont nous permettre de vraiment faire baisser notre note. Parce qu'à un moment, c'est pas parce qu'on rajoute une PAC que la note, elle va baisser si les murs ne sont pas isolés ou si les fenêtres sont toujours en simple vitrage. Donc, il y a vraiment un sujet autour de cela. Je pense que la priorité, ça serait déjà de faire ça, d'avoir une espèce de garantie autour de cela. Mais c'est toujours un peu compliqué aussi de dire aux bailleurs, parce qu'on n'a pas que des grands bailleurs. On a aussi beaucoup de petits bailleurs qui avaient travaillé toute leur vie pour garder un ou deux biens à la location pour leur retraite et qui ont un peu des problématiques sur ces sujets-là.
Sur les logements en location, justement, il y a certains de vos confrères qui disent que des mandataires, des administrateurs de biens qui ont vu certains de leurs mandats disparaître de leur portefeuille, puisqu'en fait, on a les propriétaires qui continuent quand même à louer, malgré l'interdiction. en se disant finalement qu'ils seront pas contrôlés. Donc c'est un peu un comportement délétère, mais encore une fois, quand on fait le point justement global du marché, beaucoup de réseaux immobiliers disent attention, on va arriver sur un plateau et la situation va s'aggraver sur le marché locatif et que la solution en fait pour libérer du produit, c'est par exemple d'essayer de développer de l'incitation à la location, d'essayer peut-être.
Alors ça fait partie du statut du bailleur privé qu'on parlait tout à l'heure. Alors après, je pense qu'on doit
On a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre.
On ne doit pas tout confondre non plus. Il y a aussi des bailleurs qui ont pris la décision de vendre leurs biens. Parce qu'ils n'avaient pas la capacité de le faire.
Et vous les récupérez, justement.
Et justement, oui, on les récupère. Et côté acheteur, on a cette possibilité aussi de pouvoir faire financer des travaux avec un prix réduit. Parce qu'aujourd'hui,
oui, avec une décote, effectivement.
Voilà, il y a aussi des bailleurs pour plein de raisons. Soit pour des problématiques d'imposition fiscale, qui sont obligés de se séparer de biens. Parce qu'aussi, à un moment, ils n'ont pas le budget, ils n'ont pas l'envie de se projeter, de perdre de temps. Voilà. Et côté acheteur, ça leur permet de se projeter. Ça leur permet, parce qu'avec tous les outils qu'on a d'homestaging, de voir un peu les travaux aussi qu'on aura à faire et l'analyse des fluides. Donc, en réalité, on ne peut pas dire que ce soit complètement saturé. Ce qui est vraiment saturé, c'est le marché de la location. Pourtant, dans la transaction, on retrouve des biens. Et puis après, je fais confiance à notre ministre du Logement, qui, pour le coup, a fait des annonces au MIPIN, qui est un salon professionnel de l'immobilier assez réputé, et qui vraiment a décidé de remettre des biens à la location sur le marché français, et de notamment inciter nos bailleurs et nos investisseurs à réacquérir en France pour justement louer dans de bonnes conditions.
Oui, alors justement, à réacquérir, ça veut dire payer des droits de mutation ?
Qui vont augmenter bientôt, là.
Ça a été fait dans certains départements,
alors,
déjà.
Toutes les régions ne sont pas... J'étais à Nice, et vous étiez également à Nice, à la soirée des restos pour les agents immobiliers du cœur. Il y a Eric Ciotti qui avait affirmé haut et fort qu'il n'augmenterait pas les taux de mutation, les frais de mutation dans sa région, dans les Alpes-Maritimes. À votre avis?
Alors ça, c'est à la main des élus.
Une augmentation de 0,5%, est-ce qu'elle affectera?
Sur 250 000 euros, les 0,5, ça représente 1250 euros. J'ai envie de vous dire que 1250 euros en plus, oui, c'est une somme.
Ah oui, oui.
Mais
oui.
On est bien d'accord. Mais pour autant, ça ne freinera pas. C'est pas ce qui freinera aujourd'hui l'acquisition immobilière.
D'accord. Donc pour vous, c'est un faux débat de dire.
Il y a toujours plein de débats, et je pense qu'arriver à un moment.
Non, mais les droits de mutation, c'est pas, voilà.
Je pense qu'arriver à un moment, on aura toujours le besoin de se loger, on aura toujours le besoin de l'acheter. On pourrait même prendre le problème à l'envers, parce que on disait toujours dans l'immobilier neuf, justement, qu'on avait des droits de mutation qui étaient ultra réduits, voire quasi existants, on faisait des réductions de TVA. Alors, est-ce que c'est pas là qu'on aurait dû, il y a des années, parce que c'est pas le moment économiquement, mais est-ce que c'est pas là qu'on aurait dû remonter pour éviter justement que dans l'ancien une augmentation? Mais la chose est faite. Et je pense que dans les 5 années, on peut dire ce qu'on veut, comme ils ont les recettes fiscales à rentrer pour les élus locaux sont de plus en plus faibles, parce qu'il y a eu un certain nombre de décisions qui ont été prises par le gouvernement. Donc en réalité, qu'on se dise les choses, entre 70 et 80% dans les 5 ans des droits de mutation auront augmenté. Voilà, les gens résistent, mais à un moment ou à un autre, ils vont l'avoir, cette pocket. Donc je pense qu'il vaut mieux se dire, c'est fait, de toute façon, on peut rien
faire. Les primo-accédants sont exonérés quand même.
Oh, ça, c'est une très bonne chose.
Ça, c'est une précision importante.
La chose, voilà.
Eux sont de retour sur le marché, ça aurait été d'ailleurs contradictoire
mais
de les faire.
Mais les 1250 euros, on les économisera sur autre chose, dans le plan de financement, sur autre chose. L'avantage qu'on a aujourd'hui en France, c'est qu'on peut encore lisser notre plan de financement, et ça fait partie quelque part du prix ou des choses qu'on arrive à avoir.
Voilà. Alors justement, on va parler du logement neuf. Alors logement neuf, c'est vraiment une galère pas possible. Quand on prend les chiffres 2023-2024, on voit un enfoncement dans la crise qui est absolument phénoménal. Et pourtant, aujourd'hui, des promoteurs essayent d'être résilients avec l'élargissement du prêt au zéro, avec la possibilité d'avoir des offres promotionnelles. Même certains équipent leurs appartements complètement pour les livrer clé en main. Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui? Est-ce que ça vaut la peine d'investir encore dans le neuf, contrairement à ce qu'on peut imaginer? Puisque au début, les promoteurs disaient on a une crise de l'offre et après c'est une crise de la demande et ensuite c'est les deux. Quel est le sujet aujourd'hui?
Je pense qu'à partir du moment où on a des droits de mutation, comme on l'a dit tout à l'heure, qui ne vont pas toucher les primo-accédants, que nous avons également des conditions bancaires qui sont plus acceptables. Voilà. En réalité, les conditions bancaires sont revenues avant Covid. On est à nouveau des conditions bancaires entre 2017, 2016, 2018. Donc en réalité, on n'est pas, quand on est à 3,5, c'est pas
normal,
dramatique.
Voilà.
C'est pas dramatique.
Oui, bien sûr.
Ça reste cohérent. Et puis, de toute façon, j'ai envie de dire aux clients qui nous écoutent, négociez avec vos banquiers avant de signer vos offres de prêt, qu'en cas de baisse des taux significatifs, moins de 1 point, vous ayez la possibilité de renégocier votre prêt à la baisse. C'est quelque chose qu'on peut faire inclure, comme le fait est de dire qu'on n'est pas de pénalité de remboursement.
Remboursement anticipé.
Voilà, anticiper tout ça, c'est des choses qu'on peut inclure dans son contrat. Et puis, essayer de forcer aussi par moment la main du banquier pour faire de la délégation d'assurance. Aujourd'hui, indirectement, c'est aussi l'assurance emprunteur. C'est vraiment des moments où on peut économiser. Sur les promoteurs, on voit bien, c'est nouveau. On voit bien aujourd'hui sur des plateformes comme Vente Privée, comme Showroom Privé, etc. Oui. On voit même des bailleurs, enfin des promoteurs qui sont présents.
Vous pouvez avoir deux appartements pour le prix d'un. Enfin,
j'exagère un peu. Et vous avez des réductions. Ça, c'est des choses qu'on n'aurait jamais vues il y a 10 ans. Donc, on voit bien. Oui, on voit bien que la réalité est là. Alors, économiquement, moi, je pense qu'un client aujourd'hui en couple avec un enfant, quand il visite des biens, et il y a beaucoup de biens sur le marché qui sont avant les années 90, il y a eu un peu de travaux de cosmétiques qui ont été faits, etc. Et il y a des personnes, elles se projettent pas dans l'ancien. Mm-hmm. Les travaux leur font peur. Donc, on aura toujours des clients
pour le neuf,
qui iront. Surtout que vous avez toujours la possibilité de vous dire, je suis le propre architecte, quelque part, de ma maison. Alors, bien sûr, heureusement que les constructeurs sont là, quand même, pour recadrer un petit peu les choses. Mais vous allez pouvoir, avec des plans sur Cozy Casa, vous avez des plans, maintenant, qui sont directement rattachés avec le Roi Merlin. Vous pouvez faire votre plan en 3D, vous projeter. Donc, on aura toujours des biens neufs. La seule problématique, c'est que là, on avait une bulle pendant 24 mois qui était très difficile. J'ai envie de dire que les voyants sont au vert. Donc, qu'on va réavoir de l'acquisition neuve, ça ne m'inquiète pas plus.
Alors,
que
justement,
ça.
Justement, ce sera notre dernière question. Justement, le pronostic 2025, il est quand même encore en demi-teinte, puisqu'il y a des phénomènes exogènes style... effectivement, le conflit ukrainien avec Donald Trump qui fait des annonces, qui fait baisser ou qui fait flamber le taux de rémunération de l'OAT sur lequel est basé les taux directeurs. On a l'impression effectivement qu'il y a des tendances. On avance et on recule un peu. Hein.
Oui, vous l'avez dit, je pense que c'est pas forcément la BCE qu'on doit regarder, mais plutôt les OAT.
Voilà. Est-ce que, avec l'expérience que vous avez, objectivement, 2025 devrait accompagner un peu le tassement de 2024, ou est-ce que vous voyez quand même un rebond, même s'il est fragile?
Je pense qu'en France, aujourd'hui, une bonne année dans l'immobilier, c'est à peu près 1 million de transactions actées. Je pense que c'est ce qu'on doit viser, et c'est ce qui doit être à peu près la norme.
Alors pour vous, un marché qui se porte bien, c'est 1 million?
C'est 1 million. Million. Aujourd'hui, je pense que si tout va bien, en 2025, on sera à 900. Mais ça veut dire que pour moi, ça reste une année de transition. Il y a des choses qui n'ont pas été faites timidement. On a eu des problématiques du gouvernement. On voit bien, on en parlait tout à l'heure par rapport à ce qui se passe en Ukraine, mais aussi en Allemagne et les projets de réarmement. Donc ça veut dire qu'on va acheter de l'argent de plus en plus cher parce que ça va être un vrai sujet. Donc on va se tirer un peu la bourre avec d'autres pays de l'Europe pour se réarmer. Donc j'ai envie de vous dire que avec tout ce qu'a aussi dit notre ministre du logement, donc il y a beaucoup d'investisseurs et d'autres personnes dans l'immobilier qui sur ce premier semestre restent attentifs. Attentiste. Donc ça veut dire qu'à partir de septembre, ça va vraiment accélérer les choses comme on l'avait connu en fin 2024. Le dernier quadrimestre a été assez dynamique. Donc je pense qu'il faut tout simplement qu'on accepte que ça soit une année de transition, mais une année de transition meilleure que l'année 2024. À partir de là, je pense qu'en 2026, effectivement, on sera vraiment bien. Mais pour autant, attention au prix. Voilà.
Oui, attention.
Voilà, attention au prix. Quand on est côté vendeur, n'oubliez pas aujourd'hui qu'en réalité, chaque mois que vous restez en plus dans votre projet, c'est quelque part de l'argent qui va vous coûter. Donc, par moment, il vaut mieux accepter le bon prix de cession de vente que de vouloir espérer quelque chose qu'on n'aura pas. Parce que sur les 5 années à venir, on ne retrouvera pas les années 2021. Ça, j'en suis
convaincu. Quand on avait des taux à 1%.
Oui, c'est vrai que les Français...
Et puis, on avait également, avec le Covid, une espèce d'exode. On avait tous les gens qui quittaient Paris pour aller en région. Et aujourd'hui, les personnes en région veulent revenir.
Mais ils reviennent parce que, oui, effectivement.
Et parce que les employeurs aussi referment
reviennent
un peu...
Reviennent en arrière, sur le télétravail. Voilà.
En France, on a bien ça. Hein,
tricoter, détricoter.
Les effets balanciers. Merci beaucoup, Xavier Bellemot. Merci. Je rappelle que vous êtes le directeur général de WeInvest France, qu'on retrouve sur le site www.weinvest.fr. Voilà, un réseau qui se développe sur plusieurs sujets. On va s'acheminer vers la fin de notre émission. On va se retrouver dans quelques instants pour la dernière partie des experts. À tout de suite.
Vos questions, nos réponses.
Eh bien les amis, voilà, nous nous retrouvons pour la séquence de nos experts. Vous posez vos questions et nous vous y répondons. Là, pour le coup, on a un agent immobilier avec nous. Bonjour Jean-Luc Brulard.
Bonjour à toi Sylvain, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous. Justement, on a des questions à poser. Me semble-t-il, nous avons quelqu'un qui vient de Pau.
Oui.
C'est Virginie qui a posé une question à vous, l'ami Vincent.
Oui.
Sur le club Facebook Les Proprios.
Exactement. Virginie est à Pau. Elle est locataire d'un meublé. Elle a subi un incendie assez grave. D'après les pompiers, l'installation électrique paraissante serait en cause. Est-ce qu'elle pourrait obtenir un dédommagement de son propriétaire? C'est la question que se pose Virginie.
Alors, deux préambules pour répondre à la question. D'abord, faut être assuré. Pour deux raisons. c'est une obligation du bail, hein, c'est vraiment une des obligations les plus lourdes de conséquences avec le fait de payer son loyer, mais surtout dans un cas de figure comme ça, c'est bien utile, j'y reviens. La deuxième chose quand même, un incendie avec une cause électrique conséquente, ça pose quand même la question de l'état de l'installation électrique et donc du diagnostic électrique qui a été remis au locataire à son entrée dans les lieux. Alors on n'est pas spécialiste, mais entre ne pas être spécialiste et ne pas le lire, il y a quand même une différence sensible. Faut au moins pouvoir s'assurer que les dispositifs de protection, les disjoncteurs, le 500 milli, les 30 milliampères, bon, je vais pas être technique, mais sont présents, la terre, enfin un minimum d'éléments. Si on n'est pas trop spécialiste, ben on se renseigne. Mmh. Alors je sais que dans le marché très tendu, on a du mal à dire à son propriétaire, j'ai des questions, etc. On a bien envie de prendre, mais il faut tout de suite regarder. Et si vraiment l'installation est pourrie ou médiocre, ce qui n'arrivera pas avec un agent immobilier de proximité digne de ce nom, puisqu'il engage sa responsabilité, mais notamment si on est dans une vente entre particuliers, on connaît quelques particuliers qui sont des fous furieux, parce qu'ils engagent sérieusement leur responsabilité, mais parmi ceux-là, il y en a aussi qui peuvent être bailleurs. C'est rare, mais quand ça arrive, ça fait très mal. Alors, revenons à la mise en œuvre. Première chose, on est assuré, on déclare à son assureur. Dans les 5 jours... L'assureur sont des fois un peu tolérants, mais il faut respecter ce délai de 5 jours. Et a priori, derrière, il ne va pas y avoir de relation directe avec le propriétaire. C'est l'assureur du locataire qui va prendre en charge, puisqu'il peut y avoir 3 causes des dégradations, ce qui a vraiment brûlé. Mais surtout, en général, l'incendie l'a provoqué des fumées, et alors là, tout a besoin à minima d'être nettoyé, si ce n'est d'être mis à la poubelle. Puis éventuellement, si ça n'a pas suffi, quand les pompiers sont venus avec les extincteurs et l'eau, ils ont fini l'opération. Donc l'assureur, et là ça pose l'autre vraiment point de vigilance, qui est celui de lire son contrat d'assurance. On peut aujourd'hui accéder à des multirisques habitations de tous ordres, sur Internet, etc. Avec une concurrence qui est rude, encore faut-il regarder sur quoi on est couvert, et en particulier les franchises, notamment. Parce que quand on a une bonne assurance, on peut avoir parfois, et dans les 24 ou 48 heures, déjà une somme, comme ça, sans justificatif. Ça arrive aussi pour les inondations, par exemple, sujet souvent d'actualité en ce moment. Et puis derrière, l'assureur va évidemment prendre en charge les dépenses qui sont liées au mobilier, mais peut y avoir, et dans l'exemple sans doute, question de relogement. Relogement qui va être soit temporaire, le temps de faire les travaux, soit définitif, c'est-à-dire qu'il va falloir mettre un terme à son bail et se faire reloger. Donc dans ces garanties, on peut aussi avoir des prises en charge par l'assureur, des honoraires de relocation, des 2 premiers mois de loyer, je l'ai vu récemment sur un dossier. Et puis bah, l'assureur, il va aussi se solliciter l'assureur du propriétaire qui, j'imagine, dans un studio meublé doit être dans un immeuble en copropriété. Il y a donc une obligation aussi d'assurance pour le propriétaire qu'on appelle la PNO dans notre jargon, propriétaire non occupant. On a donc 3 assurances qui se superposent, celle de l'immeuble prise par la copro, le syndic, celle du propriétaire non occupant et celle du locataire. Ça fait un peu superposition, mais en fait, ça se complète dans beaucoup de cas. Donc voilà, après, s'il y a un recours entre l'assureur du locataire et l'assureur du propriétaire, j'allais dire, c'est plus le problème de notre cher locataire. Elle, il faut qu'elle ait, elle se soit relogée, elle soit installée, elle soit indemnisée de ses meubles, etc.
D'où l'intérêt, bien évidemment, d'être très bien assuré. C'est le moins qu'on puisse dire. Direction Dreux avec Jordan. Avec sa sœur, ils ont signé un compromis de vente d'une maison héritée des parents.
Oui, et les acquéreurs souhaitent entreposer des cartons de déménagement avant la signature de l'acte authentique d'achat. S'ils acceptent, quels risques prennent-ils ? C'est leur question.
Alors, je l'aime bien celle-là parce que c'est un sujet à la fois, je ne vais pas dire quotidien, encore que...
Ça arrive, oui, ça arrive.
C'est fréquent.
Est-ce qu'on peut venir avant
Pour plein de raisons. Ouais. Et en particulier en ce moment, mais c'est plutôt l'inverse, j'y reviendrai dans ma conclusion, avec l'augmentation des droits de mutation au 31 mars ou au 1er avril, ça se bouscule au portillon, comme on dit, chez les notaires, pour signer les actes avant le 31. Bon, on revient dans notre cas, qui est le cas plutôt du locataire, de l'acquéreur, pardon, qui a besoin d'installer ses meubles. Alors, il y a plusieurs risques d'installer quelqu'un, fût-ce pour simplement poser des meubles. Un vol ou une effraction pendant cette dernière période. Il y a des meubles dans l'appartement. Est-ce que la porte a bien été refermée par l'acquéreur ou par le déménageur qui lui a fait le boulot? Et puis, il y a une effraction. On a pu lui voler son propre mobilier, celui qu'il a entreposé. Il peut y avoir un incendie, pour revenir, voilà. Peut y avoir, pour X raisons, une vente qui ne se fait pas ou qui est retardée. J'ai connu ça avec une dame qui se roulait par terre devant mon agence pour loger sa maman et faire les travaux avant l'acte. Je n'ai pas voulu. La vendeuse était une personne âgée. Elle est décédée dans les 3 mois en question. Il n'y avait pas de... La succession a duré 8 mois. Et vous imaginez la conséquence. Donc, si elle avait fait des travaux, cette acquéreur. Donc ça, c'est les causes possibles. Donc on est très frileux, et nos amis notaires encore plus. Néanmoins, pour un certain nombre de raisons, on peut être dans cette obligation. Il y a eu un retard par rapport à l'acte authentique, parce qu'il manquait un des 12 300 documents nécessaires à l'acte. Voilà, là j'avais le cas d'une dame qui était enceinte et sur le point d'accoucher, donc qui, voilà, tout ça était compliqué. On peut faire ça, bien sûr, stocker les meubles. Mais, attention, on va faire un écrit. Et attention, on va pas faire un écrit qu'on va trouver sur ChatGPT ou sur Internet. On va le faire par un professionnel, son notaire ou son agent immobilier préféré. Parce qu'il va falloir poser les conditions. D'abord, il va falloir, et en général c'est l'affaire de quelques jours avant l'acte authentique, être sûr que les conditions suspensives de la vente sont levées. Hein, parce que si l'emprunt n'est pas obtenu, c'est la catastrophe. Si vous avez parlé de, tu as parlé de compromis, mais si on a signé chez un notaire, c'est plutôt une promesse de vente. Pardon d'être technique là aussi, mais le mécanisme juridique de la promesse de vente, c'est de lever l'option, c'est-à-dire que l'acquéreur dit à un moment, j'achète. Tant qu'il n'a pas dit ça, et en général ça se fait juste dans le quart d'heure qui précède l'acte authentique, il se porte pas acquéreur. Donc on va demander par écrit à l'acquéreur de lever l'option. Condition suspensive levée, option levée, je suis sûr d'acheter. Puis derrière, on va écrire limitativement ce qui est autorisé, déposer des effets, des meubles, éventuellement dans telle ou telle pièce, dans le sous-sol, ou dans les chambres, ou partout. On va circonscrire au maximum les choses. Faut pas mettre ce qui est interdit, parce qu'on risque d'oublier des choses. Donc, il vaut mieux mettre ce qui est strictement autorisé par l'accord. On va prévoir aussi, évidemment, que l'acheteur soit assuré, et la remise des clés ne pourra se faire que s'il présente sa multirisque habitation, qu'il peut avoir à l'avance, hein, avec son compromis. On va prévoir les conditions dans lesquelles, si la vente ne se faisait pas ou était retardée, notre acquéreur devrait et pourrait récupérer ses meubles, sous 8 jours, sur simple demande, etc., de façon à ce que, quelles que soient les circonstances par ailleurs de la résiliation de l'avant-contrat, chacun puisse récupérer son bien. Voilà, en quelques mots. Donc vous voyez que, évidemment, en matière juridique, dès qu'on se dit bonjour, ça prend 2 pages. Mais là, on a quand même besoin de bien, encore une fois, encadrer. C'est un sujet assez sensible. Je précise, enfin, sauf à répondre à votre question, à vos questions, mais on peut aller plus loin. Ça peut être parfois une autorisation de travaux. Par exemple, j'ai pris du retard, mais j'ai besoin de mettre ma cuisine parce que dès que j'aurai signé l'acte authentique, faut que je sois opérationnel. Donc, on va autoriser le cuisiniste, mais toujours avec les mêmes précautions. Puis, on va dire, qu'est-ce qui se passe si la vente se fait pas? Est-ce que la cuisine reste propriété du vendeur? Sachant qu'il y a eu pour l'affaire des dégradations.
Moi, j'ai eu le même cas chez moi.
Voilà.
J'ai négocié, il est venu, je voulais commencer les travaux un mois et demi avant et en fait, il n'y a pas eu de problème.
Non, mais en général, vous savez.
Ça se passe bien.
Je parle comme les pompiers.
Mais t'as fait un acte écrit?
Non, je l'ai pas fait, mais
Mais ça c'est bien.
Je l'ai pas fait, mais comme j'avais racheté une ruine, le gars il garait carrément sa moto dans le salon.
nous, on est comme les pompiers, si vous voulez, et notre devoir de conseil, c'est pas de dire si tout se passe bien. Dans 95% des cas, c'est qu'est-ce qui se passe quand ça se passe mal et qu'on sache déjà dans quel cadre on va se trouver dans cette hypothèse. J'ajoute, et c'est encore une autre option, donc. Éventuellement, on peut avoir une occupation anticipée, encore plus sensible, encore plus risquée. Je vous autorise à vous installer avec votre famille avant d'être propriétaire. moyennant éventuellement un loyer, une indemnité d'occupation, etc. Mais là, je vous fais pas un dessin, mais faut encore plus verrouiller. Et puis, ce qu'on voit là en ce moment, sur quelques cas qui s'accélèrent, c'est l'inverse. C'est pour pouvoir signer avant le 1er avril des propriétaires qui sont pas encore tout à fait prêts, qui acceptent que la signature se fasse plus tôt, mais qui demandent de pouvoir rester un mois après. Donc là, on est dans le cas inverse. Ouais. Ils ne sont plus propriétaires, mais ils deviennent occupants de leur acquéreur. Voilà.
Ça compte aussi. D'où l'intérêt de bien encadrer.
Oui, comme quoi, vraiment, on ne prend jamais assez attention. Et notamment sur l'assurance. Je peux vous dire que quand ça arrive, on est bien content de l'avoir fait. Merci Jean-Luc Baudard.
Avec plaisir.
On va se retrouver bientôt, bien évidemment, avec vous sur d'autres sujets qui touchent l'immobilier. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre programme.
Le grand rendez-vous de l'immobilier.
Et bien voilà, toutes les bonnes choses ont une fin, c'est la fin du grand rendez-vous de l'immobilier pour ce numéro du mois de mars, c'est notre 63e édition. Merci à vous, puisque sans vous, nous aurions arrêté depuis longtemps, ça veut dire que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, notamment écouter les rubriques des experts, tous les conseils, mais surtout n'hésitez pas, écrivez-nous pour avoir des conseils, si vous avez des sujets parfois qui fâchent aussi, on pourra répondre à toutes vos questions. Merci aux équipes de Capital et de Radio Immo, et on se retrouve bien sûr à très vite, ma chère Christine.
Avec grand plaisir, Sylvain. Merci à toutes et à tous. N'hésitez pas à poser vos questions pour le prochain numéro à nos experts, et pour cela, rendez-vous sur le club, sur le groupe pardon, Facebook, le Club des Proprios.
Merci, ma chère Christine. On se retrouve le mois prochain. D'ici là, eh bien, prenez soin de vous.
C'était le grand rendez-vous de l'immobilier, une émission présentée par Radio Immo et Capital, à retrouver en podcast sur toutes les plateformes de streaming.